Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu imagines si c'est le Démogorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette fête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Et salut!
Bonjour Mathilde, comment ça va?
La blasitude. Salut, ça va.
Oh là là.
Mais vous commencez à trop.
Bah, c'est pour trop se réveiller.
Et bonjour Damien, ça a l'air d'aller.
Oui, mais moi ça va, je suis en pleine forme.
Ce mois-ci, je voudrais vous parler d'une personne qu'on aime tous les trois autour
j'ai
de la
peur.
Table.
Attends, Emilie, on n'a pas eu le temps de te demander comment toi tu allais.
Eh ben, ça va très bien.
Ah, bah, d'accord.
Je voudrais qu'on parle d'une personne.
Slow.
Qu'on a plus vu en avril que nos propres parents. Puisqu'on a passé en compagnie de cette personne 14h35.
Pedro Pascal.
Je parle de celui qui porte la moustache comme personne.
Ah, pardon, je
quoi
qu'on Mario pourrait surnommer le chonchon au cœur tendre.
Je comprends pas ce qu'il dit.
Puisqu'il a, une tendance à râler assez incroyable, mais quand on gratte un peu sous la carapace, ou plutôt sous l'armure de Beskar, on découvre une belle personne qu'on rêverait d'avoir comme tonton, parce qu'il sait s'occuper des enfants, parce qu'il maîtrise le lasso laser comme personne, parce qu'il traque les barons de la drogue, parce qu'il est un allié de la cause LGBTQIA+, aussi, et aussi parce qu'il connaît Buffy Summers.
Moi
est-ce que vous voyez de qui je parle?
Monsieur Pedro.
Monsieur Pedro.
Monsieur Pedro.
Encore plus poli. Mais qui est Buffy Summers?
Buffy contre les vampires. C'est pas son nom de famille contre les vampires.
Ah, je pensais. J'avais toujours supposé. Elle s'appelle Summers.
Oui, c'est Buffy
Incroyable.
Summers.
Incroyable.
Il connaît Buffy.
Oui, bah oui, il était dans. Il a un mini
oh,
rôle dans
vrai.
Buffy.
Oh là là, je viens
ah,
de
mais
m'en
je
rappeler.
Je crois l'avoir vu sur une photo sur Insta. Il était très très jeune.
Oui, très très
oui
jeune.
Ouais. Et donc, je parle évidemment de notre cher Pedro Pascal, un ami du podcast.
J'ai vu un
il
filtre incroyable
coup,
avec
il...
plein
enfin,
de têtes de Pedro
du... non,
sur Insta.
Oui.
Je vous l'ai envoyé, il est trop beau.
Pedro Pascalos, il faut dire.
Il écoute tous les épisodes.
Ouais,
c'est vrai.
Fou.
C'est
il
vrai.
Va,
il est super
content,
sympa.
Et on l'embrasse, évidemment.
On espère qu'il sera à Série Mania l'année prochaine.
Oh là là, la folie.
Ça
la
pourrait, il y a des gens connus qui viennent.
C'est vrai,
des fois.
Est-ce qu'il y a un peu de...
Non, pas du tout. cette semaine, donc, on va parler de Pedro Pascal.
Oui.
On va aussi parler de The Mandalorian sur Disney+.
Oh.
De The Last of Us sur Prime Video. Et de Chupa sur Netflix, où il aurait pu aussi avoir un rôle, finalement.
C'est vrai,
parce
ça aurait bien marché.
Ça se passe au Mexique, donc...
Mais il aurait pu faire qui? Un méchant, parce qu'il aurait pas pu faire le...
Le grand-père.
Bah oui, il est trop
le
jeune.
Le grand-père.
Bah, il était... Je trouve pas qu'il est si vieux que ça, ce grand-père.
Bah oui, mais quand même, il est censé être
bah,
le père
on fait
du
vieillir.
Père.
On fait vieillir.
Oui,
bah, oui.
Bon.
Et il a 53 ans dans The Last of Us. Donc ça passe.
C'est
mais
vrai.
C'est pas son vrai âge, je tiens à préciser.
Ok.
on a affaire à la,
l'expert.
Elle tient le Pedro Wiki, donc elle est au poil.
Pas du tout.
Et si tu veux raccourcir The Last of Us, tu peux faire que les premières lettres.
Je vais appeler...
Tlos.
Je vais juste dire Lost.
Pas du tout.
Non, Tlou, c'est Tlou, pas Tlos.
Ah bah oui,
je vais juste dire Last.
Effectivement, Tlou.
Donc, mais on parlera de Tlou un peu plus tard. On va d'abord parler des actualités. Mathilde, tu vas nous apporter des mauvaises et des bonnes nouvelles.
On va parler de ces séries parties trop tôt et de ces renouvellements
y a une musique triste
qui n'auraient pas dû être renouvelés. Ça se dit?
Oui.
Alors, j'ai appris.
Si c'est un peu dur pour The Last of Us, en l'occurrence.
Oui, mais... j'ai une bonne nouvelle et trois mauvaises. Non, on n'est pas là. On va parler de Frerich, dont j'avais parlé le mois dernier, je crois. Ou le mois d'avant. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même.
Est-ce que ça parlait de frigo?
Mais non. C'était le spin-off de On My Block.
Ah, mais oui. C'était le mois précédent, je crois.
Oui, et annulé. Voilà.
Ouais. Ça arrive.
Alors c'est bête parce que je peux vous en parler maintenant. À la fin, il y avait une dame qui mourait.
Spoil.
On suppose qu'elle est morte, on sait pas, on saura jamais. Personne ne saura jamais.
Elle va rester dans un état indéfini.
C'est indéfini. Voilà.
Ah mais t'avais une musique triste.
Tu vois, t'avais trouvé. Bon, continuons dans les mauvaises nouvelles. Snowpiercer s'est pris un taclé. Tu sais pas pourquoi le Snowpiercer.
Sans doute que ça a pas marché assez.
Please, annulé au terme de la saison 3. Pourtant, avec une saison 4 en quête de diffuseur, vu que Netflix refuse. Et la TNT aussi. Je crois que c'était TNT qui.
Ça existe encore ?
En France, mais du coup.
Je crois que c'est une chaîne qui s'appelle TNT aux États-Unis.
Ah oui, la télévision numérique terrestre.
Non. Vraiment le nom.
Mais par contre, je sais pas si vous vous rappelez de la saison 3 de Snowpiercer, mais ça. Enfin, voilà quoi, il y avait de quoi faire, il y avait de quoi dire.
Évidemment.
Évidemment.
Du coup, parce que moi je l'avais jamais vu, mais je pense que je regarderai jamais. Bah non.
Bah si.
Bah y a pas de suite.
Bah lance-toi.
Mais c'est n'importe quoi. Vous avez l'argument inverse pour les trois quarts des séries annulées.
Les mille et un wagons méritent qu'on les visionne. Willow.
Ah bon ?
On sait pas pourquoi.
Je crois que ça avait bien marché pour le coup.
Ah apparemment Disney Plus dit que c'est peut-être une pause. Ou peut-être qu'ils ont juste pas envie de faire de suite.
D'accord.
Moi j'appelle quand même ça un peu une annulation, on va pas se mentir. On n'annule pas vraiment. Et puis il y en a qui sont renouvelés, donc on est content. Comme The Last of Us.
Clou
est renouvelé pour une saison 2. Bon, c'était pas très.
Il y avait peu de suspense.
Peu de suspense.
Pas très
mercredi, on en avait parlé le mois dernier, oui. Donc on savait aussi. Par contre, celle qu'on voulait pas, You, bien évidemment.
Alors que c'était vraiment annoncé comme la dernière.
Ouais. Mais non.
Avant la saison 4.
Bien évidemment, il y aura une saison 5. C'est et qui là, par contre, ils disent que c'est la dernière.
Ouais.
C'est la réforme des retraites des séries.
Mais comme on vous l'a dit, on n'en parlera pas, on ne le regardera pas. Voilà.
Ok. On arrête avec les mauvaises nouvelles. Moi, je vais vous parler de deux petites infos qui ont popé comme ça au mois d'avril. HBO Max change de nom.
Ah oui.
Oui.
Ça vient de se lancer.
Oui. À partir du 23 mai et en profitant de l'intégration de Discovery Plus, qui est une plateforme visiblement aux US, HBO Max va s'appeler.
Comme Star Trek.
Canal Plus.
Max.
Oh, tout ça pour ça.
Ils vont s'appeler Max.
Ah, ils enlèvent HBO.
Comme dans Stranger Things, la fille, elle s'appelle Max.
Ah oui, effectivement.
Comme dans Max et compagnie.
Max et compagnie. Non, vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune.
Comme Max la menace.
Ouais, tellement de Max.
Ouais.
Tu sais, il y avait aussi le Max.
Max Steel.
Ouais, voilà. Max Boubile aussi.
Ouais, bon, bah.
On va vraiment faire une liste de tout ce qu'ils appellent Max.
Ça va être long.
Et on pourra
il
maintenant.
Il est libre, Max.
Tu vois, finalement, t'es de bonne humeur.
Ah bon,
j'ai pas dit que j'étais de mauvaise humeur.
Un peu.
Je suis toujours très professionnelle.
Et autrement, autre info, Canal+ améliore son offre multiplateforme. En plus de proposer un bouquet composé de MyCanal, évidemment, de CS, de Disney+, de Netflix et de Paramount+, il faut ajouter maintenant Apple TV+.
Mais ça va coûter combien ?
Eh bien, c'est là. Oh, vraiment, la transition est toute faite.
Merci, maître.
Sauf que cette fois, pas de surcoût supplémentaire.
Bah,
la plateforme Apple TV+ est intégrée à l'abonnement de base.
De 50 euros ?
Non, je sais pas le prix de MyCanal basique. Mais en plus de ça.
Attends, ça veut dire que tu payes pas Apple TV+, non. Tu l'as gratos dans
c'est
ton
pas MyCanal, t'as Apple TV+.
C'est pour le standard, celui-là ? Parce qu'il me semble que justement, quand t'as OCS, c'est que tu prends le truc supplémentaire, non ?
Je sais pas.
Mais tu peux aussi avoir OCS avec Prime Video.
Peut-être.
Ouais, j'ai vu ça.
Mais c'est peut-être tu payes en plus sur Prime pour le coup.
C'est super compliqué.
Prime, c'est vraiment le bordel. Mais
Prime, tu le payes en plus.
En gros, c'est juste que si tu prends MyCanal, t'as Apple TV+. Et si tu prends le truc à partir de 52 euros, 53 euros, t'as aussi des chaînes, quelques chaînes Canal.
MyCanal, OCS, Disney+, Netflix. Et ça revient vachement...
Attendez, c'est beaucoup moins cher que ça, c'est 35.
Par contre, je trouve que, du coup, là, l'offre pour 50 euros par mois... Bon, c'est super cher, 50 euros par mois. Mais si tu calcules chaque abonnement individuel, est-ce que t'es pas gagnant?
Bah, je pense que si, parce que 35€, t'as et les trucs Canal, t'as Apple TV, Disney, Netflix, Paramount, OCS.
C'est 35, je crois que c'était 50.
Non, c'est 35.
Ah oui, t'es largement gagnant.
Et t'as... Oui, t'es sans doute gagnant, parce qu'en plus, l'offre MyCanal, elle devient très intéressante, parce que t'as les films qui arrivent très tôt, je crois que c'est 6 mois.
Oui, ça arrive vraiment très vite.
Les films du cinéma qui sont sortis au cinéma. Et puis t'as les chaînes de télé dans ton offre MyCanal, avec toutes les offres de replay et tout ça. Donc en fait, MyCanal commence à devenir très, 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 très intéressant, quoi.
Mais la vraie diff, c'est que par contre, c'est des abonnements de 12 ou 24 mois. Donc t'es coincé une fois que t'as commencé à partir avec eux. Mais bon.
Faudrait quand même calculer.
Et t'as le foot.
Alors non, le foot, c'est un truc à part.
Ah, purée.
C'est Canal Plus Sport.
Mais je pense qu'il faudrait calculer, mais ça se trouve, il y a moyen que ça gagne.
Mathilde qui prévoit des économies. Moi,
bah écoute, il n'y a pas de petite économie. Let's go. Et bah Damien.
Eh bah oui. Damien. Bah moi j'étais ravi d'avoir l'information que du coup, parce que moi j'ai accès à Canal, à MyCanal, donc je suis content.
Tu vas pouvoir regarder Ted Lasso.
Mais je vais pouvoir regarder Ted Lasso, je vais pouvoir regarder la super adaptation de Foundation que j'avais pas regardé.
Les
en
gouttes
entière.
De Dieu.
Avec plein de trucs.
Apparemment les gouttes de Dieu ça fait ravage, hein. Moi j'ai trop envie de voir.
Le vieux manga que personne n'achète.
Ouais mais le vieux manga que personne n'achète, diffusion en avant-première lors de Série Mania avec son acteur principal japonais très connu qui était présent, non, mais quand même, un peu de respect.
Et ouais, quand on sait pas, on dit pas.
Je sens que j'ai attaqué un truc que j'aurais pas dû lancer.
Non mais j'ai pas lu le manga donc j'ai rien à dire.
Ça. Ah, moi non plus.
Ah.
Je crois qu'il y en a 42 tomes et c'est vraiment très très vieux. Pas du tout dans mon...
Tu veux dire que dans mes deux adjectifs, un était bon?
Oui, vieux. C'est vieux.
C'est déjà 1 sur 2. On va sans plus attendre passer au Hypito.
Ou au Dépito.
Eh bien Mathilde, c'est à toi que revient l'honneur d'annoncer ton Hypito.
Bon bah il y a 2 jours, 3 jours, je ne sais plus la date exacte, j'étais tranquille chez moi.
Les jours se confondent.
C'était lundi, je travaillais pas.
C'était
un lundi.
Et là, c'est tombé. La nouvelle est tombée. La saison 2 d'Air Stopper sortira le 3 août 2023. Ma vie s'est stoppée. Je n'attends plus que ça. J'hiberne, j'attends, j'ai hurlé. Je dis, oh, il faut que je trouve un nouveau truc à dessiner sur la porte pour août. Oh, il faut que je relise tous les tomes. Oh, il faut que je fasse ci. Oh, il faut que je fasse ça. Ma
Est-ce
vie a
vie
pris un tournant.
Stoppée
Ma vie s'est stoppée.
T'as même pas dit... Il faut que je re-regarde la saison 1.
Il faut que je re-regarde la saison 1, mais il faut un emploi du temps précis.
Relire tous les livres.
Il faut tout soit parfait.
Relire chaque livre de chaque édition que j'ai.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a également appris qu'en novembre, nous aurons le tome 5 des comics de Airsofter qui sortira.
C'est vrai.
Et qui aura au total 6 tomes.
Mais ça, on le garde pour le Bookito.
Il n'y a pas de Bookito. J'ai le droit de le dire maintenant.
Le podcast Book.
Il n'y en a pas.
Ok, dommage.
Pour le moment.
On devrait le créer.
Oui, mais il n'y a que moi qui lis, alors ça va être complexe.
C'est faux. Mais bon.
Ah oui.
Emilia, j'ai des livres en plus.
Alors vraiment, je ne serais pas très efficace, quoi.
Pas très efficace.
Oui, bah encore moins. Déjà que je ne regarde pas énormément de séries, mais alors en livre, moi, ce sera un podcast annuel. Hein.
Bah, j'allais dire, ça peut être tous les 6 mois.
Bah, c'est un bon animateur après. Donc on attend.
Oui.
De pied ferme.
T'as hurlé.
Oui.
Charlie, Nick et toute la bande.
Ah là là.
Je vous attends.
T'allais faire toute la liste.
Elle.
C'était de la moitié. Je suis pas obligée de la faire.
C'est bon. Je suis pas seule.
Je comprends même plus ce qu'elle dit. Damien, enchaîne.
J'ai moi aussi un hypito, qui est un petit hypito, mais quand même, il y a la saison 2 de Ranking Kings. C'est pas facile à prononcer. Et Ranking j'avais bien aimé la saison 1, je la recommande. Ça n'est pas particulièrement triste, c'est la thématique est normale.
Ça n'est pas particulièrement bien.
Non.
J'ai vraiment cru.
Mais c'est sort quand?
Bientôt.
Bientôt là.
Calmos.
Même pas de date.
T'as pas de date.
Non.
Mais bon, ça annonce une date.
Damien a une définition du hypito très très personnelle.
Alors, pour être très précis, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis.
Ah, c'est
donc,
en cours de diffusion.
C'est en cours de diffusion depuis 2 semaines.
J'aime bien comment à chaque fois il dit « Ah, c'est un hypito, c'est en train d'être diffusé. »
Bah oui.
Alors, pendant qu'on y est, il y a aussi un animé qui s'appelle Mon histoire d'amour avec Yamada Level 999.
Ah,
et bah, c'est également un Aipito de moi-même. J'adore ce manga, cet animé.
Alors, on n'a jamais dit qu'on pouvait avoir plusieurs Aipito, donc calmos. Pour l'instant, on est sur Ranking.
Voilà.
Kings, très bien.
Allez, on met fin à ces dramas et on va passer maintenant
au vrai drama.
Oh, on va parler d'un gros morceau et on va commencer notre mois spécial Pedro Pascal avec The Last of Us ou Clou pour les intimes. C'est la saison 1 qui contenait 9 épisodes allant de 45 à 60, non même à 81 minutes.
Oui, oh là là. Des très bonnes durées de
épisodes. Ça a commencé le 15 janvier, ça s'est terminé le 12 mars, donc on a un peu de retard, mais bon, voilà. Et c'est dispo sur Prime Video.
Oui.
Ça parle de l'humanité qui a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite, le Cordyceps.
Les champignons.
Et 20 ans après le début de cette pandémie, Joël, Ellie et Tess, un trio lié par la dureté du monde dans lequel ils vivent, se lancent dans un périple à travers ce qu'il reste des États-Unis. Au cours de leur voyage, ils devront faire face aussi bien aux infectés qu'à des survivants hostiles.
Oh bah dis donc, quel résumé.
Oui.
Vous voulez que je me lance?
Vas-y.
Oh, t'as l'air bien parti.
Alors j'ai noté que les premiers épisodes étaient vraiment super longs. Autant le début était vraiment bien, moi j'ai bien aimé, genre le début de la pandémie vu par les yeux de la fille de Joël, c'était vraiment stylé. Autant la partie des 20 ans plus tard, ça rame un peu sur le premier épisode, moi je l'ai trouvé vraiment long, ça met un peu de temps à se mettre en place et j'ai un peu galéré. Donc, moins satisfaite par la seconde partie de l'épisode.
On fait un détail épisode par épisode, du coup.
Non, non, pas du tout. J'ai juste marqué ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre?
Mais dans l'ensemble, la série n'est pas très rapide, hein, en même temps, en termes de rythme. Je sais pas, ça ne m'a pas choqué.
Non, c'est pas super rapide, c'est vrai. Sinon, j'ai marqué les petits plus. J'ai trouvé que le design des infectés est vraiment bien.
Dégueulasse.
Que ça soit visuellement ou même autour de tout ce qui est sonore. Enfin, ils ont fait un super travail. Ils font vraiment peur. Ça fait un peu pour. Ils font totalement penser à des raptors dans leur mouvement chelou, dans leur façon de se jeter sur les gens, de se contorsionner tel des.
Mais d'un côté, si tu bouges pas, tu.
Des trucs bizarres.
Non, c'est plus pour le T-Rex.
Mais c'est T-Rex, ouais.
Oui.
Du coup, sinon, des fois, la relation entre Joël et Ellie est vraiment attendrissante. D'autres fois, elle fait vraiment bader. C'est entre les deux. En tout cas, il vaut mieux avoir Joël dans son équipe. Je sais pas si c'est un peu ce qui ressort de tout ça. Ça met également en lumière les relations un peu,
toxique.
Pas toxique, mais en quoi les... Comment dire, en quoi l'apocalypse peut faire ressortir des traumas et l'impact de la fin du monde sur les gens. Enfin, ça fait ressortir vraiment le pire de tout le monde, on va pas se mentir. Il y a pas grand monde qui est super sympa dans cette version de l'apocalypse.
C'est vrai.
Parce que même si Joël est sympa avec Ellie, vraiment...
Oui, mais en même temps, c'est nuancé avec tout l'épisode...
Le 2 ou le 3.
C'est le 3 ou le 4 où il y a le survivaliste.
Oui.
Alors c'est l'épisode...
Je crois que c'est le 3.
Oups. Oui, c'est le 3.
C'est le 3, d'accord. Mais voilà.
Oui, c'est
lui, il part très très bas au niveau de sa morale et il finit hyper bien.
Je suis d'accord.
Du coup, moi j'ai mis le rythme du premier épisode et après je comprends que... En fait, il y a des épisodes, genre celui sur le survivaliste, typiquement, ça aurait pu être un film presque à part.
Ça se tient tout seul.
Et du coup, c'est un épisode qui apporte pas à la série. Enfin, en fait, il apporte dans la façon d'être, enfin, de comprendre l'univers, mais en soi, il aurait pu ne pas exister ou être un bonus, ou je sais pas comment expliquer, il apporte pas l'histoire. Ouais.
Mais c'est aussi parce que c'est une adaptation et vu que le lieu existe dans le jeu et tout.
Oui, c'est ça.
Ah ouais? Le personnage existe.
Pas le perso.
Oui, c'est ça. Ouais.
Je crois qu'il est Sonja Crevy.
Mais okay. Ouais, moi j'ai marqué un peu les infectés, c'est dégueulasse, certes, ça fait vraiment peur. Les gens traumatisés, ok. Les gens qui meurent, ok. Mais la partie sur le village vacances.
Ah, c'était horrible.
C'était un petit peu trop, et voilà, ça fait ressortir vraiment le pire des hommes. Donc à côté, t'as un peu ce côté des monstres qui sont là, qui font vraiment peur. Moi, c'est ce qu'ils m'ont vraiment fait peur, j'en ai fait des cauchemars. Mais en fait, je crois que le pire dans la série, c'est que c'est tellement réaliste, c'est tellement probable que c'est ça qui me fait le plus peur, je pense. Moi, c'est ça qui me met vraiment mal à l'aise dans cette série, c'est que c'est tellement probable que ça pourrait être vrai. Et après, bah, y a aussi la relation entre Ellie et Joël qui est vraiment toxique de plus en plus. Et ça me dérange un peu, mais en même temps, vu la situation et le monde dans lequel ils vivent, c'est pas très étonnant que ça tourne comme ça.
Au vinaigre.
Ouais. Je sais pas si vous avez des trucs à dire. Oh, j'ai bien aimé la musique aussi.
Ah, elle est top.
Ouais. C'est le même compositeur du jeu vidéo qui a repris la baguette. Je sais pas si ça se dit.
La baguette.
Damien, tu veux dire des trucs ?
Ah oui, j'ai un avis relativement court aussi, parce que je l'ai moins en tête aussi. Mais j'ai adoré, moi, tout du long, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun épisode en dessous qui était en trop. Le 3, je trouve qu'effectivement, il n'a pas de lien avec l'histoire directement, mais et vu qu'il est bien et que il est quand même plutôt bien intégré, j'ai bien aimé. Je trouve que tous les personnages, ils sont très attachants, et du coup, on les voit mourir, et je trouve ça triste. Mais bon, bah,
c'est pas...
Bah pardon, mais on se doute qu'il y a des gens qui vont mourir. Et j'ai mis que j'étais très pressé de voir la suite et que bah en attendant je vais sans doute jouer au jeu. Et moi sinon aussi. Est-ce que vous connaissez New World qui est un jeu auquel on peut jouer en
Cet épisode est sponsorisé par pas New World. Tout. Pas du tout.
Non, mais par les jeux The Last of Us, pourquoi pas.
Ils sont pas chers sur Vinted.
Sur Vinted.
En ce qui me concerne, j'ai trouvé les épisodes trop longs. Et c'est le seul défaut que j'aurais à dire sur la série parce que c'est une très très bonne série. Elle n'est pas révolutionnaire, mais elle fait très très bien ce qu'elle entreprend. Les effets visuels sont incroyables. Les lieux abandonnés surtout. Il y a un mélange d'effets numériques et de décors réels qui est bluffant. À chaque fois qu'on arrivait dans une ville, je me dis, mais comment ils ont fait ? Parce que ce décor, il est utilisé qu'une fois. Alors qu'en général, dans les séries, ça recycle les décors. Mmh. Et là, c'était vraiment, ça m'a bluffé. Y a l'alchimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey qui est évidente.
Peut-être
et les deux
qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Game of Thrones.
Peut-être. Les deux sont très très bien dans leur rôle. La tension, elle est également gérée avec brio. Je retiens particulièrement la séquence d'ouverture qui raconte les dernières heures de l'humanité quand tout est en train de s'effondrer. Mmh. C'est... Enfin, ça met une grosse tarte d'entrée, quoi.
C'est peut-être ça qui fait que vous trouvez la suite un peu molle, c'est que le début était vraiment très très bien. Ça se trouve, si on avait commencé avec...
De l'épisode 1, parce qu'après, moi, le rythme m'a convenu. C'est vraiment la deuxième partie de l'épisode 1.
Le découpage.
Ouais, c'est cet épisode-là en particulier qui était mal... le rythme mal... trop rapide, enfin ouais.
Et c'est surtout qu'il dure 1h20, donc en fait tu passes d'une séquence de 20-30 minutes très intense à presque 1h un peu plus molle après.
Mais ça aurait presque pu être 2 épisodes en soi, hein, jusqu'à la mort de sa fille et après, paf.
De ce que j'ai pu voir, c'est une très bonne adaptation du jeu vidéo. Ça va jusqu'à reprendre des scènes au plan près, donc ça c'est toujours rigolo, ça fait plaisir aux fans. Dans l'écriture aussi, on sent que le média de base c'est un jeu, dans l'enchaînement des séquences d'infiltration, d'action et de discussion. Par exemple, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas que c'est l'épisode 6 ou 7 où il y a Joël qui est au sniper pendant... pendant un quart d'heure.
Grave.
Ça se voit trop qu'en fait dans le jeu t'incarnes Joël et tu tires et tu dois aider Ellie à passer. Voilà, en fait, ou alors si c'est pas le cas, c'est vraiment très bien fait d'utiliser des gimmicks du jeu comme ça. Je crois que aussi la principale liberté finalement, c'est la transmission du champignon, parce que dans le jeu c'est avec des spores et là c'est pas des spores,
c'est en mode zombie.
C'est en mode, ouais, c'est, tu te fais mordre ou alors les champignons,
le sang,
si te...
J'ai l'impression.
Ouais, aussi. Voilà. Mais c'est pas la respiration. C'est la principale différence, et je crois aussi que la temporalité. Le jeu se passe en 2033, parce que le monde s'est effondré à l'époque contemporaine de la sortie du jeu, donc vers 2013. Voilà.
Ah oui, okay.
Ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'en fait, la série, avant d'être une série post-apo qui parle de zombies, parce que les claqueurs disparaissent assez vite de la série. Mais en fait, c'est un road trip de deux personnes qui découvrent qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour survivre et pour se reconstruire dans ce monde. Donc ça parle de plein de trucs par rapport à leur relation. Et en fait, c'est la série, elle aime ses personnages et leurs relations qui sont justement au cœur du récit. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je suis aussi pressé de voir la suite. Et je pense que je vais jouer au jeu avant.
Et moi, je ne jouerai pas au jeu.
Mais si, comme ça, on peut jouer chacun notre tour et quand il y en a un qui meurt, on change la manette.
Ouais, mais ce n'est pas le genre de jeu que j'apprécie, moi, avec les longues cinématiques et tout.
Bah moi, c'est clairement ma cam.
La détester.
Moi, c'est, voilà. Non, mais c'est ma cam, justement. Les jeux cinématographiques, c'est mon truc à fond.
Ça, c'est les longues
cinématiques. Et si on parlait d'un post-apo à un truc qui n'a rien à voir.
Eh bah oui.
on va parler de Crash Landing on You, qui est un drama coréen, vraiment.
Ah, mais je crois que c'était un drama post-apo.
Eh ben non, pas du tout.
Non, elle a dit rien à voir.
Rien à voir. J'ai regardé la saison 1 qui est également... Enfin, j'ai regardé l'intégrale parce qu'il n'y a qu'une saison qui fait 16 épisodes. Les épisodes font 50 minutes. C'est sorti le 14 décembre 2019, donc je suis très en retard.
C'est hyper... Ah ouais, c'était il y a longtemps.
Oui, c'est dispo sur Netflix. Ça parle d'une jeune femme qui a eu un accident de parapente. Pas n'importe quelle jeune femme, attention. Une héritière sud-coréenne. Et suite à cet accident de parapente, elle a atterri en Corée du Nord et dans la vie d'un officier qui décide de l'aider à se cacher.
Là, t'as pas lu le résumé mot pour mot, mais la première phrase est incroyable. Un accident de parapente catapulte une héritière sud-coréenne en Corée du Nord.
Et catapulte dans la vie d'un officier.
Oui, non, mais oui. Vraiment, je suppose que des gens sont arrivés voir Netflix en disant « On a un scénario ». Ils ont lu ça. Et Netflix a dit banco.
Je sais pas si c'est vraiment original, Netflix.
Je sais pas.
Alors, la tornade, c'est pas ultra réaliste. En fait, elle se fait... c'est ma première phrase de ce que j'ai écrit. Non, mais en fait, bon, ça fait longtemps que j'avais pas regardé de drama et ça fait encore plus longtemps que j'avais pas regardé de drama coréen jusqu'à la fin. Genre, j'ai regardé la moitié et j'ai arrêté. Pourquoi ? On ne sait pas.
Donc, parce là, qu'ils sont trop longs leurs épisodes.
Je l'ai fini de A à Z. J'étais waouh. J'étais choquée. Et je suis contente d'avoir repris avec ce drama en particulier parce qu'il était super intéressant, super cool. C'est une histoire plutôt incroyable, en fait. Bon, passer l'histoire un peu loufoque où la meuf a fait du parapente, il y a une tempête qui est vraiment mal faite, qui l'emmène, elle la tue pas, elle l'emmène sur la ligne de front de Corée du Nord. Et malheureusement, jamais, hein. Elle passe du mauvais côté en marchant entre des bombes, parce qu'il y a des bombes par terre, elle marche dessus, elle explose pas, tu sais pas comment elle fait. Et bim, elle se retrouve en Corée du Nord.
Elle est très douée.
Incroyable. À part ça, vraiment, la série est trop bien. On parle d'une fille qui est habituée à être super riche et tout ça, qui se retrouve dans un village en Corée du Nord. Donc, il y a l'électricité pas tout le temps. On est obligé, il n'y a pas de frigo. Enfin, vraiment, elle est complètement dans un autre monde. Et elle apprend, en fait, que l'important, c'est pas l'argent, l'important, c'est pas la réussite.
Comment ils font pour le beurre, du coup, par exemple?
Et ben en fait, ils ont une cave à l'extérieur où ils mettent tous les produits frais et ça reste frais, en fait.
Okay. C'est écolo.
Oui.
Voilà. D'autres infos? Parce que je peux vous dire, l'électricité, ça s'arrête vers 17h30. Ils ont des voitures.
Il y a des restaurants.
Alors, j'ai pas vu de restaurant. Justement, d'habitude, en Corée du Sud, il y a beaucoup de restaurants. Et là, en Corée du Nord, on les voit pas manger au restaurant.
C'est pour ça qu'ils ont séparé les deux Corées.
Ils ont des espèces de tickets de rationnement et tout. Donc, vraiment, il n'y a pas de magasin.
Tous les hommes ont la même coiffure?
Non.
Maintenant, il y a un truc où il y a 6 ou 9 coiffures,
ouais,
officielles.
C'est ça.
Pas beaucoup, 6 ou 9.
Et du coup, les femmes, c'est pareil. Quand elles vont chez le coiffeur, elles ont genre 6 coiffures et elles ont chacun un nom. Genre, il y en a un qui s'appelle... je crois « Belle au revoir » ou un truc comme ça.
C'est comme les menus des restaurants asiatiques. C'est A1, B2.
C'est ça. Et du coup, tu choisis et tu peux pas choisir autre chose que cette coupe de cheveux-là. Donc, tout le monde a les mêmes coupes de cheveux. Autre question sur la Corée du Nord. Je commence à être...
Combien de temps dure le service militaire?
10 ans.
C'est très, très long.
C'est plus un service militaire. C'est un emploi.
Faut me demander. Je dois... Donc, voilà. Cette série était bien. Ça compare deux pays qui ont strictement rien à voir, là où en Corée du Sud, on est vraiment presque dans une culture, pas à l'occidentale, mais pas loin, en fait, très inspirée des États-Unis. Dans la Corée du Nord, ils sont vraiment un retour en arrière, quoi. Et tout est géré, genre tu peux pas faire venir qui tu veux. Si tu veux sortir de la ville ou aller dans tel endroit, t'es obligé d'avoir des laissez-passer. Tu peux pas vraiment faire, enfin oui, tu peux pas faire ce que tu veux. Genre si tu veux sortir de ton pays, tu dois aussi avoir un laissez-passer. Il faut dire pourquoi tu sors, faut dire pourquoi tu reviens, comment tu reviens. Enfin, tout ça est très strict. Et en fait, on suit ces deux personnages, donc la Coréenne du Nord qui est une héritière et le soldat, et ils vont tomber bien évidemment amoureux. Et le but de la série, c'est de voir comment ils vont vivre leur amour alors qu'ils vivent dans ces deux pays différents.
C'est Roméo et Juliette.
Ça paraît incroyable et j'ai beaucoup aimé vraiment. Mais par contre, le final m'a un peu déçu parce que la conclusion, c'est un peu genre bah écoutez, la Corée du Sud et la Corée du Nord, ils vont rester comme ça pour toujours. Et le gars ne s'enfuit pas de la Corée du Nord, hein, il continue à y aller, il devient juste pianiste, donc il a la possibilité de voyager. Et deux semaines par an, il se retrouve en Suisse, où ils vivent voilà, deux semaines par an ensemble.
C'est peu.
C'est méga triste. Moi, j'ai trouvé ça super triste comme fin. Mais,
ouais.
Mais sinon, le reste du drama était trouvé super marrant. Les scènes d'humour, quand tu vois, il y a le... En gros, le pas le policier, le...
Le
soldat qui se retrouve, qui va en Corée du Sud, et donc il y a toute sa troupe de 4 loustiques qui le suit, et eux ils découvrent la Corée du Sud, tu vois. Ils avaient jamais dit, ils sont là, est-ce qu'ils ont fait exprès de sortir toutes les voitures pour nous impressionner?
Trop mignon.
Et il y a même un gars de Corée du Nord qui fait croire à un autre que s'il y a des machines à café, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la machine à café qui fait chauffer son café.
Non, mais là, ceux qui sont un peu con-con.
Non. Du coup, après, il ne veut plus boire de café dans les machines à café parce qu'il croit que c'est de l'exploitation.
Oh.
Voilà. Et des fois, ça part en mode baston de ouf avec des flingues et tout, et c'est marrant. Ils savent trop bien se battre.
Ça devient chaud, les dramas.
Ouais.
Oui, il y a beaucoup de choses quand même, entre les blagues, les bastons. Et...
Ah non, mais c'est marrant, c'est plein de bastons, il y a plein d'humour, plein d'amour, c'est waouh.
Mm.
Plein d'émotions, il y a aussi des gens qui meurent. D'ailleurs, il y a un personnage qui meurt, je trouve que vraiment, il n'a pas de ce perso. C'était la conclusion, genre, il meurt, et la meuf qui est amoureuse de lui, bah, voilà, c'est tout.
Okay.
Il se passe rien pour elle. Oui, voilà, c'est...
Pas vraiment partie de l'histoire, du coup.
On va parler peut-être de quelque chose de plus heureux maintenant.
Oui, on peut parler de The Mandalorian, par exemple.
D'accord.
Est-ce que c'est vraiment plus heureux, je ne sais pas.
Non, c'était trop marrant.
Parce qu'il y a une planète qui est détruite, quand même.
C'est vrai.
Donc, la saison 3, qui contenait 8 épisodes de 45 minutes, on l'a vu de mars à avril 2023. Non, c'était diffusé de mars à avril 2023. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez tout voir, tout est disponible. C'est sur Disney+, c'est donc une nouveauté. Alors, l'histoire de cette troisième saison, c'est que depuis que Grogu est revenu à ses côtés, Din Djarin voyage en sa compagnie. Il est informé par l'armurière mandalorienne que la seule façon pour lui de redevenir un mandalorien, après qu'il est devenu un apostat en retirant son casque volontairement, est d'aller se baigner dans les eaux sacrées d'une mine de la planète Mandalore. Ça, c'est le tout début du plot.
Oh, mais laissez-moi commencer.
Vas-y.
C'est incroyable.
Si tu veux.
Bon. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé Boba Fett.
Oui.
Boba Fett. Du coup, moi j'avais pas trop compris le début quand on a repris. J'étais en mode, bah pourquoi Grogu il est là?
C'est un des vrais gros problèmes de la série.
Bah oui, moi j'avais pas, je sais pas moi, il est pas là à la fin de la saison 2 et puis bim, il réapparaît.
C'est surtout dramatique en plus quand il s'en va. Enfin,
oh, je m'étais même pas posé la question du coup.
Du coup, moi je comprenais rien.
Parce que c'est le meilleur
évidemment,
épisode de Boba Fett.
Heureusement.
En plus,
Donc c'était donc un peu nul pour moi qui ne comprenais absolument pas pourquoi, ce qui se passait.
Mais pourquoi t'as pas regardé juste cet épisode de Boba Fett?
Emilien m'a résumé ce qui s'était passé, heureusement. Ah. Mon sauveur. Merci. Et sinon, j'ai noté le crocodile est super bien.
Le crocodile?
C'est parce que dans le premier épisode, il y a. Quand ils sont dans le.
Tu te souviens du premier épisode? C'est bizarre.
C'est quand ils sont dans l'endroit où il y a les Mandaloriens qui habitent dans les grottes, il y a un énorme crocodile qui jaillit de l'eau et qui va essayer de les manger.
Ah oui, il est bien fait.
Ouais.
D'accord.
Et sinon, bah, j'aime bien. On retrouve les aventures en mode découverte des différents mondes, tu vois, un peu comme il y avait avant, mais peut-être un peu moins. Il y a un peu plus d'histoires et de fil conducteur que dans les premières saisons. Dans les premières saisons, c'était genre, ils allaient à un endroit et puis à un autre, et puis ça s'enchaînait un peu n'importe comment. Là, c'était plus... Il y avait le fil conducteur où, en gros, bah, Mando essaie de re-être bien vu par les siens. Et en même temps, ils essaient d'unifier les Mandaloriens pour essayer de recréer une communauté, pour essayer de recréer leur, retrouver leur planète, etc., etc. Le fil conducteur, c'est vraiment autour des Mandaloriens en général et comment bah, ils vont réussir ou pas à être tous ensemble contre les autres. Et ouais, donc ça, j'ai bien aimé. Et c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. L'histoire était cool. On n'a pas revu la tête de Pedro Pascal, donc on ne sait pas vraiment s'il est en dessous le casque. Mais il a une jolie voix.
Ces gens qui pensent qu'ils ont mis quelqu'un d'autre.
Non, mais c'est vrai qu'il ne fait pas tout, tout, il fait toutes pas les tout, scènes. Tout, tout. Déjà, oui, il fait pas, déjà, il ne fait pas les cascades.
Comme ils ne font pas tous, tout le temps toutes les scènes, du coup.
Finalement. Oui.
Et le seul petit truc, c'est que je trouve que des fois, ils servent un peu de gros goût comme un élément comique de la série.
Des fois, tout le temps.
Donc du coup en fait moi je le prends plus trop au sérieux, enfin le côté des, c'est un enfant oui mais un enfant de Jedi quand même tu vois, quand il est dans son robot et qu'il fait no
c'est le moment le plus drôle de la série,
c'est incroyable. Voilà.
Moi j'ai bien aimé cette saison aussi, mais je trouve que l'ambiance a changé depuis la première. Je me souviens de la première, du coup moi je m'en souviens comme d'un truc avec une idée beaucoup plus unifiée et tout. Et là je trouve que c'est un peu plus le bazar. Mais c'est peut-être le fait que dans la première il y avait beaucoup de paysages sauvages et tout, alors que là il y a plus de de villes.
Il passait plus d'une planète à une autre. C'était vraiment en mode plus un conte. Je sais pas comment expliquer, mais limite, des récits qui avaient rien à voir les uns avec les autres.
C'est ce qu'on reprochait. Enfin, moi je l'ai jamais reproché, mais c'est ce que les une partie des gens reprochaient, c'est qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Mmh. Parce que c'était effectivement un épisode, une planète, une péripétie. Quoi.
Un peu comme une série bouclée, au final.
Ouais, un peu.
Plus classique. Ouais. Bon, enfin, du coup, je trouve que l'ambiance était un peu différente. Je sais pas si c'était moins bien ou mieux. Non, c'était pas mieux. Du coup, c'est globalement un peu moins... Enfin, je préférais la première saison, mais il y a peut-être un côté découverte aussi qui jouait. Mmh. Je trouve que là, il y a un peu moins de nouveautés et tout, donc c'est chouette parce que l'histoire est intéressante et puis que le personnage de Grogu il évolue, donc c'est cool, et puis on voit de plus en plus de Mandaloriens différents et on voit aussi leurs évolutions de perso, genre Bo-Katan elle a un développement cool. Et voilà, je trouve que c'est chouette que ça s'intègre aussi toujours aussi bien dans toutes les autres histoires de Star Wars, c'est très bien fait pour le coup tout ça. Sauf si on ne regarde pas les autres histoires de
Oui, mais c'est, en vrai, c'est pas un reproche à faire à Mathilde. C'est la série qui a fait n'importe quoi.
Bah, tu peux au moins faire 5 minutes d'explication.
C'est marrant parce que toi, tu dis que t'aimais plus les premières. Moi, je crois que j'ai préféré celle-là. C'est genre ma préférée de toutes les autres parce que, en fait, il y avait un ou deux épisodes que j'avais vraiment aimé dans les premières. Mais vraiment, c'était. Mais bref, que là, je trouve que le fil conducteur est trop bien. Et en fait, on comprend pourquoi la série s'appelle The Mandalorian. Enfin, je sais pas, mais tu vois, c'est un Mandalorian, mais du coup, on suit l'histoire vraiment des autres aussi, et ça apporte vraiment... Moi, ça m'intéresse trop, leur culture, savoir comment, ce qui s'est passé, pourquoi ils en sont arrivés là, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir et tout. En fait, je crois que leur communauté, c'est le truc qui m'intéresse le plus dans tout le truc, tout le Beans. C'est pour ça que, là, après, j'ai bien aimé aussi les petites parties sur l'Empire avec les gens qui essayaient de faire genre ils se sont réhabilités dans la société.
Oui, réinsérés.
C'est un côté vachement intéressant de, et en même temps un peu...
Bah, ou même sur les Richards qui étaient en mode « Non, mais nous, ça change pas grand-chose que ça soit un empire. »
Oui, c'est ça.
Ah oui.
Un petit passage un peu...
Ben, moi, je suis plus team Damien parce que cette saison m'a laissé un peu mitigé. J'ai adoré les 3-4 premiers épisodes où on suit vraiment la quête de rédemption de Mando, qui essaye de retrouver sa place dans sa communauté, la découverte de Mandalore aussi.
C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu.
Oui, qui est vraiment chouette. En plus, on la découvre comme ça, alors que si, comme Damien et moi, on a regardé toutes les séries d'animation, on ne sait pas non plus. En fait, on avait déjà vu Mandalore, mais... Quand ça allait
normal,
bien.
Normal, quoi.
Oui, ouais. C'est ça.
Oh, le gros monstre, il est trop impressionnant.
Oui, le gros monstre, c'est trop cool comme moment. Mais ensuite, quand Mando devient secondaire dans l'histoire au profit de Bo-Katan, c'est pas que ça m'embête que Bo-Katan devienne l'héroïne de la série, parce que comme tu dis, Mathilde, la série s'appelle The Mandalorian, donc bah, on peut parler d'une Mandalorian dans cette série. Donc ça m'embête pas, c'est plus que l'histoire... m'intéresse moins, ça fonctionne moins, et puis je sais pas quoi vraiment penser de l'épisode qui ressemble à un épisode de Doctor Who.
C'est lequel ?
Bah, l'épisode où il arrive sur la planète où il y a justement les Richoux.
Ouais, il y a plein de caméos d'autres acteurs.
Il y a des caméos, enfin c'est le festival du caméo, t'as Jack Black, t'as Lizzo, t'as Christopher Lloyd.
Ouais, ils doivent trouver pourquoi les robots.
Ah oui, c'est vrai.
Les robots font n'importe quoi.
Ça faisait un filler.
Ouais. Ça ressemblait vraiment à un épisode de Doctor Who.
Pour moi, c'est un épisode de Doctor Who où t'avais Mando et Bo-Katan, c'était le docteur et sa compagne. Ouais. J'ai pas trop aimé cet épisode. Tout comme l'épisode sur Coruscant qui, on en a parlé.
Ouais, il m'a moins intéressé, mais après, il est quand même intéressant. Oui. En fait, il est intéressant dans l'univers de Star Wars, peut-être qu'il devait. Mais dans Mandalorian, je sais pas s'il devrait. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer.
Il m'a réjoui parce que je suis fan de Star Wars et je trouve ça hyper, hyper intéressant quand on enrichit de cette manière l'univers. Mais voilà, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Quand je regarde The Mandalorian, en tout cas.
Peut-être dans l'autre série qu'on regardait.
Dans Andor.
Ouais.
Ça aurait aucun rapport parce qu'Andor, c'est.
Oui, mais c'est des épisodes.
C'est 20 ans avant.
Plus politique, en fait, que dans Andor. Enfin, ils avaient. Je trouve qu'Andor, ça parle un peu de ça aussi, genre dans ce qui se passait dans les prisons, les trucs comme ça. Donc, je pense que ça ressemble vraiment à un épisode un peu plus politique. Et du coup, dans Andor, ça aurait peut-être été plus intéressant, même si ça n'a rien à voir au niveau temporel et historique et tout, quoi.
Mais c'est clair. Et donc, au contraire, la première saison, elle avait réussi à présenter une histoire autonome à l'univers global, on va dire. Et en fait, là, je trouvais que c'était trop au cœur de la galaxie. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux très importants dans The Mandalorian, et c'est ça qui m'embête un peu. Le côté western dans la bordure extérieure, j'aimais bien ce côté-là. Et pourtant, on en a parlé, cette saison, elle propose les meilleures scènes d'action.
Beaucoup de créatures, le crocodile, les oiseaux qui volent.
Les gros singes.
Oui, les gros singes dans Mando.
Oui, le dragon. Il était fou, le dragon.
Le dragon.
Oui. Il y a aussi un moment hilarant quand Grogu a son droïde de voyage là, qui fait que appuyer sur Yes. J'ai vraiment pleuré de rire devant. Donc voilà, tout ça pour dire que cette saison 3 me laisse perplexe et parce que je la trouve paradoxale.
Je connais une autre série qui te laisse perplexe.
Ah oui, c'est The Bold Type, la saison 4, qui compte 16 épisodes de 45 minutes.
Oh, mais c'est très long.
C'est énorme. C'est sorti à Milan entre janvier et juillet 2020.
Ouais, mais c'est parce qu'on a, deux saisons de retard.
On avait vraiment
c'est la saison 4. Mais vous avez oublié.
Oui, on a juste oublié.
Et c'est dispo sur Prime Video, et c'est Mathilde et moi qui l'avons vu. On suit toujours les carrières, les amitiés, les amours de trois jeunes femmes qui travaillent pour le magazine féminin new-yorkais Scarlett.
Superflex.
Ah.
Il y a des trucs et il y a des... En fait, j'aimais beaucoup cette série parce que je trouvais que par rapport à Sex and the City ou les trucs comme ça, elle était beaucoup plus moderne, bien évidemment. Et en fait, des fois, là, il y a des trucs qui cloche de ouf dans la façon d'écrire. Genre, on a Kate, elle s'occupe des réseaux sociaux, elle filme des vidéos pour les réseaux sociaux, elle filme pas dans le bon sens.
Elle filme à l'horizontale.
Enfin, c'est des petits détails, mais vraiment, c'est très bizarre. C'est pour une millénieuse.
Peut-être qu'elle veut projeter sur une télé.
Non, elle est sur Insta, je comprends pas.
Ouais, c'est pour les réseaux. Hein.
Non, mais il y a plein de petits trucs comme ça où c'est pas ouf écrit, il y a... Je sais pas trop. Et les personnages font des choix bizarres, principalement Red, c'est pas son prénom Red, mais qui elle se met à vouloir se marier, donc elle va se marier, elle prépare son mariage. Et à un moment, on a l'impression qu'elle va dire non, le mariage c'est pas pour moi, et finalement elle est en mode ah si, le mariage c'est pour moi, mais je dois faire mon mariage ou je sais pas trop quoi. Enfin, en fait, c'est une série qui était très féministe et très avant-gardiste, et là en ce moment, elle est vraiment. Elle prend un tournant un peu étrange que je ne saurais expliquer. Et peut-être que après, comme on n'a pas fini la saison, peut-être que ça va évoluer et qu'il va y avoir un retournement de situation. Mais là où on en est, c'est un petit peu étrange, je trouve.
Oui, j'ai noté les mêmes choses dans mes souvenirs, les trois premières saisons. Elles étaient impertinentes, elles étaient sorores, elles étaient engagées, militantes. et d'une assez bonne qualité pour une série TV US. Mais voilà, cette saison 4, elle est plus laborieuse pour les raisons que tu as évoquées. Moi, je trouvais que en fait, elle se prenait les pieds dans le tapis et elle se plantait dans certains discours. Mm. Voire, elle véhiculait même des injonctions qu'on fait aux femmes et aux couples sans s'en rendre compte. Mm. Notamment l'histoire du mariage, où un moment, bah, carrément, Sutton, on lui dit « Faut que tu sois une femme empowerment et tout. Mm. » Et en même temps, il faut que tu sois une bonne femme au foyer,
une bonne, femme au foyer, ouais.
Bonne mère de famille et tout.
Donc, et du coup, elle craque et finalement, elle décide de suivre son mec à l'autre bout du pays et donc d'abandonner sa carrière à laquelle elle est née trop... Enfin, c'est vraiment écrit très bizarrement.
Et
peut-être que c'est pour faire un retournement de situation dans la saison d'après.
Bah peut-être, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est... Mais c'est... le truc, c'est que ce n'est pas le seul moment où ça capote. Ouais. Après, il y a encore quand même des bonnes choses. La série continue à travers ces personnages qui sont sans tabou d'explorer la société. Par exemple, ça parle un monde d'échangisme.
Ouais, d'échangisme, de mycose vaginale.
De mycose vaginale, ça parle
de sextoy.
Voilà, donc ça continue un petit peu d'explorer tout ça et de lever...
De l'évolution de ta sexualité tout au long de ta vie.
Oui.
Kate, c'est Kate. Non, je confonds les prénoms. Si. On avait une des filles qui se considérait comme lesbienne dans les premières saisons. Ah oui. Et en fait, là, elle rencontre un mec et elle se rend compte, en fait, elle est peut-être pas lesbienne, elle est peut-être bisexuelle ou pan. En fait, elle sait pas trop. Et du coup, ça montre que tes avis et tes envies peuvent évoluer tout au long de ta vie et que t'es pas obligé d'être défini par un mot ou quoi que ce soit.
Donc voilà, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses moins bien. Et puis, c'était trop long. Vraiment, d'habitude, c'était 10 épisodes ou 8.
Tu veux qu'on parle d'une série encore plus longue ?
Et là... Oh là là, oui, oh purée.
C'est mon deuxième marathon drama coréen du mois. Est-ce que j'ai fait que ça ?
T'as bien repris, du coup.
Ouais, j'ai bien repris. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2, donc l'intégralité de My First First Love, qui comptait en tout 16 épisodes de 50 minutes. C'était sorti le 14 décembre 2019. En fait, je me suis fait un marathon de drama de 2019, apparemment, sur Netflix. Ça nous parle d'un étudiant qui laisse à contre-cœur quelques-uns de ses amis emménagés dans sa maison, qui devient alors le théâtre d'amour, d'amitié et de toute une palette de sentiments. Deuxième drama, comme je disais, je m'arrête plus. Là, en plus, j'en regarde un autre. Donc, le mois prochain, préparez-vous, il y en aura un autre.
Drama de 2020, du coup.
On ne sait pas. Non, je crois qu'il est récent, tu veux que je regarde. On est sur un drama où on suit le quotidien de quatre amis et c'est vraiment mignon, attendrissant. Même si, en vrai, c'est super prévisible, on ne va pas se mentir. Le héros a une meilleure amie. Depuis le début, on sait qu'ils vont finir ensemble, mais le drama passe par... des points partout, des retournements de situation inexpliqués, inexplicables. Un pauvre, le meilleur ami du gars qui se met à sortir avec du coup cette fille et au final qui se fait larguer, qui est triste et malheureux. Ah là là. C'est horrible, ce pauvre mec n'avait rien demandé. Ils auraient pu le laisser tranquille, mais non. Mais oui, c'est mignon, c'est sympathique à regarder et la musique était vraiment cool. Je pense que je vais me faire une playlist de musique de drama coréen. Voilà.
Ok.
Allez, on continue.
On va continuer avec une série plus courte.
Ouais,
bien plus courte.
Beaucoup plus courte.
Et ça fait du bien.
Parce que vous avez vu que 16 épisodes de 50 minutes, combien ça fait ?
Ça fait beaucoup de temps.
Ça fait beaucoup de temps.
Alors attention, 16 fois 50, ça fait juste 23h73.
C'est une journée.
Une journée ! Attends, c'est incroyable.
Comment 16 fois 50, ça peut faire...
Je sais pas calculer. J'ai fait 50 fois 16.
Logiquement,
ce qui fait 800. Si on divise 800 par 60, non, c'était un mauvais calcul. Ça fait 13 heures, voyons.
Ah, donc on peut le faire deux fois dans la journée.
Non,
parce que tu meurs. Hein.
Tu meurs.
Oui, tu meurs.
Tes yeux, ils clignent plus.
Mais en tout cas, on va parler de Canis Familiaris, la saison 1, qui dure donc 6 fois 10 minutes. C'est sorti le 28 mars 2023 et c'est sur Arte TV. C'est notre première série Arte.
Waouh.
Et c'est gratos, évidemment, parce que c'est le service public.
Est-ce que c'est le moment où c'est Slow qui prend la parole pour parler de Canis Familiaris ?
Il pourrait donner son avis. Alors, on y suit Max, le chef des chiens du quartier, qui a tout pour être heureux. Mais Max s'ennuie terriblement.
C'est Max ? Comme
comme Max. HBO Max qui c'est s'appellera
incroyable.
Max. Lorsqu'il s'interroge sur un hypothétique autre chose, il met le doigt dans un engrenage de crise existentielle qui va mettre en péril l'équilibre de la petite meute du lotissement et la position favorable qu'il occupe.
Ah mais oui.
Très mignon.
Et bah sur le papier, cette série n'a aucun sens. Et parce que c'est littéralement des adultes
en costume de chien
déguisés en chien. Et en pourtant, c'est hyper bien, finalement.
Moi, j'aime trop comment ça arrive à retranscrire les émotions des chiens.
Parce que ces chiens anthropomorphes sont jamais dans l'imitation fidèle des chiens.
Non.
C'est pas comme Alain Chabat dans Didier, par exemple. C'est vraiment des humains qui se comportent comme des humains,
mais en chien.
Mais qui font des trucs de chien, genre ils vont jouer à la balle,
oui.
Mais en humain.
Comment ils font pipi ?
Ils ont pas montré.
Je crois pas. Mais en fait, il y a un vrai. C'est presque burlesque.
Ouais.
Mais la magie, elle opère. Et on se prend en jeu de suivre ce groupe de chiens et de chiennes qui occupent leur journée à faire des trucs de chiens. Et vraiment, c'est très drôle. Il y en a un qui. C'est un bâtard.
Mm.
Et il est un peu con.
Oui.
Et il est hyper drôle.
C'est le meilleur ami de Max.
Oui. Et il y a des blagues qui sont très drôles. Mais il y a aussi une forme de mélancolie qui se dégage de la série.
Oui. Moi, j'ai trouvé que Max, il est très triste.
Oui, bah, il est en dépression, Max.
Il essaye de trouver un sens à sa vie parce qu'il est dans son lotissement, mais il aimerait faire plus de choses, être libre, en fait.
Il veut retrouver la vie sauvage. Mmh.
Mais en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas.
C'est pour ça qu'ils font Familiaris. Parce que...
Et en fait, la série, elle, à travers ses personnages de chiens, elle veut parler de la dépression, et notamment celle que les Américains appellent midlife crisis. En gros, oui, c'est une sorte de crise de la quarantaine. Sauf que là, Max, je crois que c'est une crise de la septaine, parce qu'il a 7 ans. Voilà, en gros, cette série qui elle parle de la dépression, elle le fait hyper bien. Et en même temps, elle est drôle, parce que c'est des humains déguisés en chiens. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Moi, j'ai trouvé ça très poétique aussi.
Oui.
J'ai bien aimé.
Le format est rigolo, ça pourrait être genre 6 vidéos YouTube.
Oui, ça pourrait être ça.
C'est marrant.
On a terminé les séries.
Ah oui.
On va enchaîner avec les films.
Oui.
Moi, j'ai un film dont je souhaite vous parler, qui s'appelle Les Misérables. C'est sorti en 2019 au cinéma, je pense. Ça dure 1h42, c'est disponible actuellement sur Netflix. Ça n'est pas une nouveauté. C'est un film réalisé par Ladji Lee, avec Damien Bonnard, Issa Perica et Alassane Lee, qui est sans doute de la famille de Ladji Lee.
Il y a un indice.
Je n'ai pas vérifié, mais ils ont le même nom de famille. Souvent, ça veut dire que c'est les gens de la même famille. Alors, le résumé. C'est Stéphane, donc joué par Damien Bonnard, qui est tout juste arrivé de Cherbourg et qui intègre la brigade anticriminalité. Aucun mot n'est bien dit. La brigade anticriminalité, la BAC, de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses deux nouveaux coéquipiers, Chris et Guada. Deux baqueux d'expérience, ils découvrent rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se retrouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes.
C'est Darmanin qui est dans le drone. Voilà.
Mais non, en plus, c'est justement... en fait, c'est un gamin qui est dans le drone. C'est un gamin d'un des quartiers qui filme.
On peut mettre les gens dans des drones.
Tout à fait. C'est le futur.
Dans les drones.
En fait, c'est un post-apo. Enfin, c'est un truc futuriste.
Ils ont mis un enfant dans un drone. Non.
N'importe quoi. Et donc, je préfère rien trop spoiler parce que vraiment, c'est un beau film. Et l'histoire est assez simple et à la fois très efficace. C'était poignant. Ça prend assez peu de parties. Ça raconte une histoire, quoi. Ça. C'est pas un documentaire ou c'est pas quelque chose comme ça.
C'est pas Bac Nord.
Voilà, c'est pas Bac Nord. C'est clairement... évidemment qu'il y a des choses qui sont pas bien des deux côtés. Personne va dire le contraire, mais oui, non, c'est pas Bac Nord. C'est un peu moins... le point de vue est un peu moins flic, de toute façon. Les jeunes jouent ultra bien. ce qui est cool parce que ça marche pas tout le temps. On a un film qu'on a vu où les enfants jouent un peu moins bien. Et du coup, j'ai pas vu l'heure 42 passer. Au final, c'est pas très long, mais ça passe vraiment bien. Il y a un peu deux finales. Il y a un petit truc chelou dans la construction, mais j'imagine que c'est un peu fait exprès. Et le vrai final est assez incroyable. Ça met une vraie claque en fin de film. Et par contre, juste le plot, je pense, dans la France de 2023, tiendrait pas, parce que tout tient sur le fait que s'il y avait des violences policières qui étaient mises en ligne, il y aurait une révolution ou ce serait le bazar. Et en fait, bah, a priori, non. Du coup, donc...
Il y aurait des casserolades.
Ouais. Où il y aurait plus des émeutes de banlieue comme ce qu'il y avait eu
dans les
années 2000. Mais... Ouais. Mais oui, bah, du coup... Enfin, ça fait vraiment un truc bizarre de réaliser que le plot tiendrait pas. Et c'est un peu triste. Mais n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment chouette.
Ok.
Moi, j'ai regardé un film, mais rien à voir.
Ça se passe pas dans le 93 ?
Non, ça se passe aux États-Unis.
Ah oui.
dans une communauté indienne américaine.
Ah oui, effectivement.
C'est Winding Season. C'est sorti le 4 août 2022. Ça fait 1h37 et c'est disponible sur vous. Netflix, je vais dire Netflix.
C'est ta nouvelle plateforme.
C'est la version Wish.
C'est réalisé par Tom D et c'est avec Pallavi Sharda et Suraj Sharma. Voilà. Je sais pas si j'ai bien dit les noms, je m'en excuse.
Ça va sonner bien.
Ça raconte l'histoire de Asha et de Ravi qui, sous pression de leurs parents, font semblant d'être en couple le temps d'un été de mariage, mais leur plan déraille lorsqu'ils tombent réellement amoureux.
Est-ce qu'on peut faire plus cliché, par contre?
Bah, pardon, mais c'est le scénario de Prête-moi ta main.
Quoi?
C'est le scénario de 60
comédies romantiques. Ouais, c'est ça, c'est un scénario très très basique, on va pas, voilà, tergiverser. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'ils en viennent là? En fait, ils sont tous les deux... indiens d'origine, et en fait c'est leur mère les inscrit sur des sites de rencontres et elles remplissent leur profil.
J'avais vu la bande-annonce.
Elles remplissent leur profil et en gros du coup ils vont au rendez-vous pour leur faire plaisir, mais dès le départ ils veulent pas eux rencontrer quelqu'un. Asha elle est dans une entreprise, elle veut avoir une carrière. Ravi il a arrêté en plein milieu parce que il est DJ super connu, genre il gagne trop bien sa vie, mais ses parents ils croient qu'il fait rien en fin de sa vie alors que c'est un DJ super connu. Enfin, ils sont vraiment pas dans ce que leurs parents voudraient pour eux. Et le film parle de ça, de ce que les parents et ta culture un peu t'imposent, des normes en fait sociétales que tu peux avoir. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils passent tout leur été à faire semblant d'être en couple et vont à une vingtaine de mariages parce qu'ils ont toujours des membres de leur famille et de leur communauté qui se marient. Donc, ils vont au mariage, ils font semblant d'être en couple pour, au final, finir ensemble, mais ne pas se marier. Et je trouve que c'est quand même ça le point culminant de l'histoire. C'est qu'en gros, ça raconte en mode peut-être que le mariage, c'est bien pour certaines personnes, mais peut-être pas pour nous. Et l'autre truc que j'aime bien dans ce film, c'est aussi ils vont à beaucoup de mariages, et en fait on voit beaucoup de mariages de personnes ayant des origines et des religions différentes. Genre y a une fille, elle est hindouiste, je sais pas si on dit comme ça.
Ouais, je pense.
Hindou peut-être, et son mari est musulman, tu vois, et ils se marient, et du coup t'as ce mariage là qui est trop bien parce qu'ils prennent un petit peu des deux cultures et des deux religions pour faire leur propre mariage. Et j'aime bien, c'est bienveillant, c'est ouvert d'esprit, et le fait que les deux protagonistes à la fin font un peu ce qu'ils veulent et finissent pas par aller se mettre la bague au doigt, j'ai trouvé ça cool.
Les deux se disent pour un doux et un doux.
Ok. Ça avait l'air bien.
Ça a l'air bien.
Ah, c'est sympa.
Mais ça ressemble à Prête-moi ta main. Je plaisante. On va passer maintenant au documentaire parce qu'il n'y avait que deux films. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle Un monde 5 étoiles. C'est sorti en mars 2023. Ça dure 50 minutes et c'est sur France.tv. C'est réalisé ou créé par Ismaël Alissa et Vincent Caucase. Ça va aller très très vite. Les notations, c'est une invention du capitalisme qui se sert de nous pour faire encore plus de profit sur le dos des gens et qui s'en sert aussi pour nous noter en tant que personnes vivant sur la Terre. Le capitalisme, c'est de la merde. Là, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, les notations, c'est de la merde. Voilà.
Tu arrives vraiment très vite.
Ah bah, c'est vraiment ce que le documentaire dit en 50 minutes. Donc, c'est une grosse synthèse. Sinon, bah, il est plutôt bien. La réelle, elle est soignée. Et c'est marrant parce que c'est souvent ponctué de pubs des années 80, des États-Unis, qui sont hyper cringe parce qu'elles illustrent le propos qui est vraiment pas jojo du doc. Donc, enfin, c'est... Là-dessus, c'est bien fait. Et autrement, il y a une voix off qui est assez agréable à écouter. C'était un bon documentaire que j'ai regardé. Voilà.
Et c'est l'un des un format assez court. Ce qui est...
Oui, en plus, il se regarde vite.
Est-ce que ça ressemble à l'épisode de Black Mirror ou...
Bah non, parce que ça essaye pas de, oui, pas de faire un truc fantasmé. Enfin, ça essaie d'être factuel. Mais ça parle de Black Mirror et de Minority Report. Mmh. Parce que ça parle de Minority Report juste à un moment où on dit que la police, elle utilise les systèmes de notation de chaque individu pour, avec un algorithme, anticiper les passages à l'acte dans la criminalité. Enfin, et apparemment, ça ne marche pas du tout, mais la police continue de foncer là-dedans. Donc ça pose des vrais problèmes. Donc arrêtez de noter tout et n'importe quoi. Voilou.
Loulou.
On va passer au sujet du mois et on va écouter la bande-annonce.
Allons-y, il est parti par là.
Ça va être super fun. Ton père disait toujours que San Javier était absolument magique. Et tes cousins aussi seront là.
Je me souviens même pas d'eux.
Et on commence tout de suite avec cette incroyable histoire qui nous vient du Mexique et qui est en passe de faire le tour du monde.
El chupa quoi ?
El chupa cabras. T'en as jamais entendu parler ?
Chupa cabras n'existait pas. C'est une légende.
Qu'est-ce que c'est ?
Le chupacabra !
Et si on l'appelait Chupa ?
Tu sais que ça veut dire suceur de sang.
Chupa ? Ça doit rester notre petit secret.
N'aie pas peur. Je vais prendre soin de toi.
Il y a plein de mauvaises personnes qui veulent tirer profit de lui. Vous l'avez vu, je le sais.
Il faut qu'on le ramène à sa famille.
On s'en va, dépêchez-vous !
Attention, stop !
Allez, démarre, démarre ! T'es sûr que tu sais conduire une voiture ?
Ah non ! Ouh !
T'inquiète, tu seras plus jamais seul. Ta famille t'attend quelque part. On va la retrouver. On va rester ensemble. Je vais prendre soin de toi.
C'est la bande-annonce de Chupa, le film réalisé par Jonas Cuarón avec Demian Bichir, Evan Whiten, Christian Slater, Ashley Ciara et Nicolas Verdugo. C'est sorti sur Netflix le 7 avril 2023 et ça dure 1h35. Est-ce que vous voulez un peu de folklore mexicain ?
Ah bah, on est chaud.
J'ai fait quelques recherches sur les chupacabras, littéralement les suceurs de chèvres, tout à fait.
Ah, cool.
C'est une créature folklorique de l'Amérique latine, surtout au Mexique et à Puerto Rico. Sa légende est très récente, ça commence en 92.
Est-ce que je peux me permettre une remarque ? Je crois que Pedro Pascal est originaire de Puerto Rico, justement.
Non, il est chilien.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, my bad.
Rien à voir.
C'était mon espoir de qu'on reste dans le thème de ouf. J'étais content. Et...
Il est chilien.
Bon, bah, je suis un peu déçu. À la fois, tant mieux pour lui.
Et on l'embrasse, bien sûr. Donc ça commence en 92.
Ça aurait pu. Mes yeux sont sortis de mes orbites.
Quand plusieurs oiseaux, chevaux, poules et chèvres sont retrouvés, quoi, tués et vidés de leur sang.
Ça, des poules aussi. Histoire.
Et d'une partie de leurs organes internes.
Ah bah c'est encore pire.
Après,
que
la
réalité.
Après, la taille de la bestiole, et ils bouffent la poule.
Oui.
Je pense que...
Donc à partir de là,
c'est un flanc.
Dans les années 90, toute l'Amérique du Sud rapporte des animaux tués dans des conditions similaires.
Rapporte, genre on parle.
Oui, en gros, tout le monde dit moi aussi, j'ai, ma chèvre, elle est morte comme ça.
Ouais, ouais, il y a les rapports.
En 97, il y a même plusieurs photos de la créature qui apparaissent, mais oh, toutes sont fausses.
Ah, c'est extrêmement décevant.
Et en fait, bah, depuis, on n'a jamais vraiment vu plus de choses sérieuses, mais on continue d'y croire. Il y a un truc avec les coyotes atteints de la gale. Mm. Qui ont à un moment aux États-Unis eu un comportement pareil à attaquer des animaux. Et ça fait référence à une autre créature là, qui est plus dans un folklore des États-Unis, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, il y a peut-être un bail avec les animaux, des animaux sauvages malades qui attaqueraient des animaux et qui feraient ça. Toujours est-il que quand on googlise Chupacabra, on trouve des visuels, des croquis, des machins, qui n'ont rien à voir avec la créature du film.
Quoi ?
Vraiment, on est plus sur une tête de reptile.
Bah, la photo qui montre à un moment donné, enfin le croquis d'ailleurs,
oui,
elle ressemble plus à la créature.
Ouais. Ah, mais on dirait un reptilien.
Reptilien. Et par contre, il y a quand même un truc, 92.
Ça ?
92 comme par hasard.
C'est ça. Comme par hasard. Mm. Comme par hasard, l'année où on est né.
Il y a des gens, ils ont pris juste des chiens en photo, ils croient.
C'est ce que je dis, c'est des chiens atteints de la gale. Donc ils perdent leur pelage, ou alors ils ont un pelage un peu crassou.
C'est pas drôle.
Mais est-ce qu'ils volent ?
Ils ont pas d'ailes, non.
Ouais.
Le résumé de ce film, c'est un adolescent qui s'appelle Alejandro, qui rend visite à sa famille au Mexique. Il découvre un jeune chupacabra caché dans la remise de son grand-père afin de sauver la créature mythique.
C'est une grange.
Ah oui,
c'est un peu la
le résumé
la
n'a pas vu le film. Afin de sauver la créature mythique, Alex et ses cousins doivent se lancer dans l'aventure de leur vie.
Sans Zin.
D'ailleurs, on voit pas beaucoup de chevaux.
Cousin. Zin.
Et sa cousine, oui.
C'est vrai.
En général, je copie-colle les résumés tels quels.
Bah, oui.
Et souvent, ils sont pas très bien écrits. Qui veut commencer à parler de ce film ?
Bah, je veux bien.
Allez.
Moi, j'ai trouvé que la créature, justement, était très mignonne. Pour le coup, l'animation est bien faite et tout. C'est...
Oui.
Vu que tout repose là-dessus, quand même, globalement, c'est plutôt bien. Enfin, tout repose là-dessus et sur le jeu des enfants, qui est un peu moins bien, du coup, là, pour le coup, si je peux me permettre. Le film est sans doute à destination d'un public assez jeune, donc qui, au final, peut-être s'en fichera un petit peu de savoir si les enfants jouent bien ou pas. Et ça répond assez bien, je pense, pour ça, parce que c'est court, l'intrigue est claire, et puis ça marche bien. Les CGI sont chouettos. Moi, je trouvais qu'à la limite, ce qui était le plus mal fait, c'est même pas la créature fantastique, c'est le puma à un moment donné qui est censé attaquer le gamin. Hein.
Ouais. Déjà, on sait pas pourquoi il y a un puma. Et puis.
Bah, parce qu'il y a des pumas, je
pense. Oui, non, mais ça, je sais bien, dans le désert, il y a des animaux sauvages.
Pourquoi il y a un
puma ? Mais je veux dire, dans le scénario, pourquoi foutre un puma là ?
Ah oui, oui, il y a déjà des humains méchants.
Bah oui.
Ça suffisait, c'est vrai. Et toute la partie enfant d'immigrés qui rejette ses origines pour s'intégrer, et puis qui finalement les embrasse au fur et à mesure, qui prend conscience que c'est son histoire, c'est plutôt chouette.
Mm.
Et intéressant.
C'est vrai.
Et ça va parler à plein de gens, donc c'est. C'est super.
Bah alors, moi, oui, c'est... je lui pardonne tout parce que c'est un film pour les enfants et que je suis pas le public, donc forcément, j'ai dû passer à côté. J'ai trouvé qu'il était long.
Long ?
Ouais, je me suis ennuyée.
Il n'y a qu'une histoire, ça fait 102.
Moi, le... Ouais, je me suis...
Ah ouais.
Je trouvais qu'il était long. Peut-être parce que j'étais fatiguée.
Oui,
peut-être.
Ah, et de tempêtes.
Oui, il y a des tempêtes. Et des blagues.
Bon, il y a des blagues, pardon.
Je pense que quand ton grand-père a Alzheimer, faut pas le laisser tout seul dans sa ferme ou le laisser partir vadrouiller partout.
Bah,
il faut le dire à des adultes pour qu'ils s'en chargent. En fait, je trouve que rien n'est cohérent,
mais
rien n'a de sens.
Justement, à la fin, il va.
Oui, bah
dans sa
avant,
famille.
Il s'est quand même perdu près de la route, je sais pas combien de fois, où il fait des trucs. Il aurait pu se faire mal, il aurait pu se blesser.
Il a le droit de faire ce qu'il veut.
Donc voilà, je trouve que rien n'a de sens. Vraiment, leur réaction quand ils rencontrent la créature, le fait qu'en 2-2, tout le monde accepte cette créature, le fait que c'est la créature et l'enfant soient meilleurs potes en 2-2, le fait que ça n'a pas de sens, rien n'a de sens. Et pourquoi la maman du Choupa machin, et ben, quand elle revient, elle a pu son aile qui est brûlée alors qu'ils sont partis depuis
soigné.
2 jours.
Oui, ça on sait, ils ont des pouvoirs magiques.
Ah bon, non, désolé, on m'a pas dit qu'ils avaient des pouvoirs magiques.
Mais elle a du cicatrile dans le sang.
Mais oui, t'as pas vu au début.
Arrêtez.
Mais si.
Arrêtez-vous.
Ah non, mais ça, de manière certaine. Tu sais, quand il se réveille et que le Choupa est en train de lui lécher la main.
Oui, bah le Choupa, il guérit sa main, c'est vrai. T'as raison.
Mais il guérit pas que sa main, du coup, il guérit tout.
Ok. Donc le Choupa a des pouvoirs de guérison. Bon, moi, ça m'a pas. Ça m'a pas transcendé.
Un point de détail.
Je trouvais que tous les choix n'avaient pas de sens. Pourquoi cet enfant de 13 ans conduit une voiture et que quand il passe devant la police, personne ne dit rien.
Parce qu'au Mexique,
c'est la campagne
c'est
et tout.
Non mais stop.
Non mais Mathilde, t'as grandi dans le Loiret, même dans le Loiret, tu peux faire ça. Je suis désolé.
Le Loiret, on appelle ça le Mexique français.
Bah oui.
Vous êtes trop de mauvaise foi. Il y a rien qui va dans ce film.
C'est tellement sévère.
Pour le coup, je pense que des gamins de l'âge de la gamine qui conduisent, c'est ok. Hein.
Quoi ? Quand j'avais son âge, une fois, j'ai conduit un scooter et la police, elle m'a arrêté.
Bah oui, mais c'est pas
j'avais rien
pays.
À faire sur un scooter.
Parce que tu connais pas la.
Et j'avais un casque pourtant.
Ouais, c'est vrai qu'elle avait pas de casque.
Et en plus, elle a failli écraser un monsieur devant la police. Et si la musique par contre elle est trop bien. Enfin j'ai bien aimé la musique quand il chante dans la voiture là, c'était cool.
C'est vrai, c'était marrant.
Mais ouais, non, il m'a pas transcendé. Même la créature, j'ai trouvé c'est pas le problème de son apparence. Je trouve qu'elle avait une apparence cool, mais pas ultra super giga bien faite non plus. De temps en temps c'était bizarre. Et le coup de quand elle vole et que le gamin s'accroche à sa queue et qu'il la soulève, non mais en fait sa queue s'arrache.
Mais non, peut-être qu'il a une queue particulièrement résistante et que il est fait pour tracter des choses avec sa queue.
Je vois bien que vous vous êtes dit on va faire barrage contre Mathilde. Donc je vais arrêter. Vous êtes en train de me bully devant tous nos auditeurs,
devant Pedro Pascal.
Ouais, en plus.
Vraiment, on est pas
je suis sûr que Pedro Pascal doit se dire que rien de ce film n'est rien.
Alors,
rien
en plus,
va.
On dit à peu près la même chose. Juste.
Juste, je suis méga sévère, mais vraiment, je me suis grave ennuyée.
Mais en plus, moi, je suis à peu près d'accord avec toi. Parce que le mois dernier, quand je vous avais vendu le film, je vous avais dit c'est un film d'aventure avec des enfants.
Surtout que tu m'avais dit c'est en mode Coco. Alors, avec Coco.
Non, j'ai dit c'est au Mexique.
tu m'as dit c'était. Je pensais que c'était un truc comme Coco. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Coco. J'étais trop triste.
Avec Gad Elmaleh.
La grosse déception.
Non, mais parce
quoi Le Pixar. Non, le Disney.
Et au final, on est clairement plus proche d'un direct ou DVD Disney des années 90-2000.
Ah oui,
avec des enfants qui jouent pas toujours très bien, un adulte gentil un peu marrant et un adulte méchant.
Il est rigolo,
qui est juste...
il perd la mémoire.
Mais c'est quoi
et
c'est
un
pas...
adulte méchant
mais...
qui est juste très, très méchant. Très son bien... rôle, c'est d'être méchant.
Très bien conservé ce papier. On va
c'est vrai qu'il manque d'enjeu, lui. Au moins un truc de sa famille en danger ou
mais y a
un
pas
truc.
De...
Parce que là, il n'y a rien.
Enfant, donc il n'y a pas d'enjeu. Il est méchant.
Oui, mais.
Et des effets spéciaux pas foufou. Au passage, mon film préf dans ce genre-là, c'est La morsure du lézard. Il est sur Disney+. Il est avec Chia LeBeouf, qu'il faut cancel.
Est-ce qu'ils font des trous ?
À l'époque, il était sympa. Quoi ?
Au début du film ? Non, ça.
En fait, tout le... Oui, tout le... Enfin, c'est dans un désert où les enfants creusent des trous.
Ah, mais j'ai lu ce bouquin.
Oh,
ah oui, je l'ai lu aussi. Et le film est incroyable. Mais on n'est pas là pour parler.
Vous m'avez dit, c'est l'histoire d'un film où les enfants creusent des trous dans un désert. Mais non, non.
Si. Et ils perdent des chaussures.
Quoi ?
Oui, Stanley Yelnats perd ses chaussures. C'est comme ça qu'il se retrouve.
Moi, je l'ai lu à 12 ans, je me souviens de
voilà,
rien.
Voilà. En vrai, je vais le regarder. Ce film fait aussi un peu penser à E.T.
Bah,
de Spielberg. Bah si, parce que vraiment, c'est un enfant qui croise une créature et qui devient pote avec lui en 10 minutes.
Et qui s'envole avec lui.
Sauf que ici, la créature, elle est vraiment mignonne. E.T. il est un peu badant.
Il est dégueulasse. Mais il y a peut-être l'époque qui joue. Hein. Ça se trouve, on fera E.T. maintenant.
C'est vrai. Même si le film n'essaye pas d'apporter des sous-discours sociaux.
Un peu, non ?
Il y a un peu. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tous les gentils sont du Mexique et le méchant, il est blanc.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on pourrait conclure qu'il est sans doute des États-Unis.
Américain. Ah, bah, il dit qu'il est d'une agence américaine. Okay.
Donc, il y a peut-être un truc. Je connais pas assez vraiment. Je sais que c'est pas toujours la fête entre le Mexique et les États-Unis. Mm. Mais je connais pas assez pour savoir s'il faut conclure des trucs. En tout cas, j'ai aimé le traitement du Mexique parce que c'est pas le festival des clichés.
Non.
C'est juste, comme tu dis, comme il apprend petit à petit à aimer la culture. De son père, enfin même de sa mère aussi, voilà, ça parle un peu de tacos et de tout ça, et de catch surtout, mais c'est pas.
De luchador.
C'est pas.
Azul!
C'est pas toutes les 3 secondes, si on ferme ma sonnerie de réveil, ça. Ce cri-là.
Après, il faut se taper dessus, a priori.
Non, mais moi, je veux pas entendre ça quand je m'arrête.
C'est quand même pas trop mal écrit aussi. Parce que j'aime bien qu'on voit que...
En train de continuer de parler de ce film.
Oui, mais c'est parce que, regarde, pour les enfants, il y a un jeune garçon qui n'arrive pas à faire le deuil de son père. Et c'est mignon de voir qu'en découvrant ses racines et en se liant avec sa famille... à travers une amitié avec ses cousins et ses cousines et son papy, et cette aventure, et aussi avec la petite créature, eh ben, il fait son deuil. Mm. Bah, c'est plutôt mignon. Chupa, justement, il est aussi mignon, parce que moi, j'ai aimé que son design, il était pas comme on a l'habitude de voir maintenant des petites créatures avec des petits corps, des grosses têtes et des gros yeux.
Ouais.
Ça, c'est cool. Ça le rend plus crédible et ça le rend pas toujours adorable 100%. Ça reste une créature
qui a des plumes, quoi.
Qui a des plumes.
Il y a vraiment Slow qui me regarde, genre, bah moi je suis adorable 100%. Ouais. Elle s'est vraiment posée sur le côté.
Le film est pas spécialement très ambitieux, mais il fonctionne. C'est un bon film pour les enfants, c'est assez charmant. La durée, moi, je l'ai trouvé très bien.
Je crois que j'étais trop fatiguée.
Mais regarde, t'enlèves quoi ? En fait, le problème, c'est que tu peux plus enlever grand-chose parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs même.
Moi, je croyais que ça allait se finir au moment où il a failli tomber du pont et que le petit machin le sauve.
Oui, mais là, c'est trop. Oui, voilà, là, ça rallonge un peu, c'est vrai. Mmh. Notamment quand il y a le puma. Et évidemment, avec un regard premier degré d'adulte, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Mais je crois qu'il faut prendre le film pour ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire à s'adresser aux enfants. Et là-dessus, je trouve qu'il le fait bien. On a vu des films pour enfants qui étaient nettement pires.
Oui.
C'est un film avec Pedro Pascal.
Ah,
qui est le seul bon film. Non, qui est le seul bon.
L'espion ?
Oui, le seul bon truc du film. Non, le super-héros, là. On est tous des héros ou je sais plus quoi, là.
C'est nous les héros. Il y a marqué. Ah oui, je suis sur TV Show. Je suis sur Captain Watch avec le truc de Pedro Pascal. Et je regarde et il y a marqué c'est nous les héros, j'aime pas.
Ce film prenait les enfants pour des imbéciles.
Et le Wonder Woman 1984, j'aime pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a fait ?
Pedro Pascal était la seule bonne chose de ce film. Mais on s'éloigne beaucoup.
Non, on s'éloigne pas, c'est le thème du.
Pedro Pascal, c'est le thème. C'est pas bifurqué à un moment donné.
Ah bon ? Oui. Ah bah je croyais que c'était ça.
On passe au reco ?
Oui !
Alors, pour ce mois de mai, il y a énormément de choses qui se poursuivent, qui continuent, qui avancent, qui... Waouh, vraiment. Bon, il y a The Power sur Prime Video, un épisode par semaine, toujours, jusqu'au 11 mai. J'ai 2 épisodes de retard au moins. Mais le dernier épisode, j'ai pleuré comme un bébé, donc fallait un petit peu de temps que je me remette.
Ah bah, tu veux pas regarder Ranking Kings, mais par contre, tu pleures devant The Power.
Bah, s'il te plaît.
Oh, comment ça juge ?
Scam France, saison 11, que j'ai toujours pas commencé. Probablement 10 épisodes.
C'est sûr, c'est sûr.
C'est sûr, oh bah, c'est sûr.
C'est sûr et certain.
Oui.
Villain de Saga, saison 2, toujours un épisode par semaine, le lundi.
Oui, en fin
alors,
de journée.
Alors là, on est parti dans les animés.
C'est très précis.
Alors, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury, saison 1. On est toujours sur la saison 1 ?
Oui, ils l'ont fait en deux parties.
Ok, bah, saison 1 avec un épisode tous les dimanches. Mon histoire d'amour avec Yamada, level 999, la saison 1 en épisode par semaine. Je crois que ça sort également le dimanche sur Crunchyroll. Skip and Laufer, saison 1, un épisode par semaine sur Crunchyroll. Ça sort normalement les mercredis, si je me trompe pas. Mais...
Ah oui.
Ouais, ça sort pas en même temps que les autres trucs. Demon Slayer, la saison 3, un épisode par semaine sur Crunchyroll aussi. C'est sort le dimanche. Meshul, saison 1, un épisode par semaine sur Crunchyroll. Ça sort aussi le dimanche. Mm-hmm. Et Ranking...
Tu vois que c'est dur à dire. Ranking Kings.
Kings. Saison 2, un épisode par semaine sur Crunchyroll le...
Je sais pas.
Un jour. Un jour de la semaine. Alors ça, c'était ce qui continuait. Pour les nouveautés, ce qui débarque sur les plateformes ce mois-ci, le mois prochain du coup, pour mai. Jeudi 4 mai, il y aura La Reine Charlotte, un chapitre de Bridgerton. Ça sera un spin-off, on va dire, de Bridgerton qui reprend l'histoire de La Reine Charlotte qu'on voyait un petit peu dans la série principale. Ça fera 6 épisodes, ça sera sur Netflix et oui, c'est donc un préquel de la série. Il y aura Star Wars Vision, saison 2. Ça fera 9 épisodes sur Disney+. Ça sera diffusion un épisode par semaine aussi.
J'ai pas l'info.
D'accord. Alors, il y aura vendredi 5 mai, il y aura Silo, saison 1, 10 épisodes sur Apple TV. Dystopie où l'humanité vit 1 km sous terre. En vrai, j'avais regardé ça, mais ça... Je sais pas.
Ça s'était présenté à Cannes Série.
Ah ouais?
Ouais.
Oh, Cannes Série...
Pourquoi tu râles?
C'est la bourgeoisie de la série. Oh non, mais... Je te jure. Ouais, bah je sais pas quoi te dire.
Moi ça me dit bien.
Quelle série?
Non, Silo.
D'accord, ok, bah je...
En plus avec Rebecca Ferguson.
Et okay, c'est une adaptation d'une saga littéraire, c'est bon signe en général.
Oui, c'est vrai. Mais j'en ai parlé la dernière fois et vous m'avez dit, ah c'est encore une dystopie, nanana.
Ah oui, en mai c'est le festival des dystopies.
Ouais. Mercredi 10 mai, il y aura Dance Brothers, saison 1, 10 épisodes sur Netflix, une série qui parle de deux frères qui veulent être danseurs.
Mais ça n'a pas l'air mignon.
Ah.
Ça a l'air un peu Darkos.
Ah, pourquoi pas. Quelle origine, tu sais, non?
Américain, je pense.
Ok. Il y aura Queen Cléopâtre aussi. Alors, si j'ai compris, c'est une mini-série qui comptera 4 épisodes sur Netflix qui, je pense, retracera la vie de la reine Cléopâtre. Comment, pourquoi, je ne sais pas.
Bonjour, c'est le Emilien du montage. On a complètement oublié de vous parler d'une série qui sort le jeudi 11 mai sur OCS, qui s'appelle Besoin d'amour, qui compte 6 épisodes. C'est une série qu'on avait ratée à Sériemania, parce qu'on avait dû faire des choix, mais que j'avais très très envie de voir, donc je vais sans aucun doute la regarder ce mois-ci. Voilà, je vous renvoie dans l'épisode.
Vendredi 12 mai, la très attendue saison 7 de Queer Eyes sera disponible. 7 épisodes sur Netflix, seulement 7 épisodes.
Il y en a un de moins que les saisons d'avant. C'est horrible.
7 moments où je vais pleurer.
Horrible, c'est beaucoup.
Je pleure à chaque épisode presque. Black Knight, saison 1, 6 épisodes sur Netflix, série coréenne post-apo à la Mad Max. Ça a l'air vénère et violent, ouais.
Ça a l'air cool.
Mais ça a l'air violent à la coréenne, quoi.
Ouais, bah ils savent bien faire. Hein.
Oui, c'est pour ça. C'est pas violent américain, c'est violent coréen.
Un peu comme Elbourg. Je sais pas si vous avez regardé, non. C'était un drama coréen aussi. Ça, vraiment, la bande-annonce, elle donnait déjà pas très envie de regarder la série, parce que c'est un peu trop violent pour moi. City on Fire, saison 1. 8 épisodes sur Apple TV, c'est un thriller sur la disparition très mystérieuse d'une étudiante liée à des incendies et des riches agents immobiliers.
Oui, c'est comme ça que c'est décrit.
Ok, bah ça c'est
un peu
très...
comme les pitchs qui sont un peu aléatoires.
Je trouve que c'est mystérieux.
Oui.
Pour le coup... Il y aura également le film Le Cratère qui sera disponible sur Disney+.
Ça parle de volcan ?
Mais non, ça parle d'un jeune garçon qui grandit sur une colonie lunaire et qui décide d'explorer un mystérieux cratère avant de partir sur une autre planète.
Donc voilà. Plutôt c'est des cratères d'astéroïdes.
Ça a l'air vachement bien.
Et ben voilà, ça fait 1h45. Mercredi 17 mai, Fanfiction, un film qui sera disponible sur Netflix, un film polonais qui parle de deux lycéens en quête de leur identité. Ça peut être cool. J'ai pas vu la bande-annonce, mais ça peut être sympa.
Ouais.
Docteur Chat, saison 1 sur Netflix, un drama coréen qui parle d'une mère au foyer qui redevient interne en médecine. J'ai vu ça, que ça allait sortir. Bien évidemment, c'est un drama, j'ai envie de le regarder. Jeudi 18 mai, on arrête.
Oula, oula, on arrête. Oula,
oula. XO Kitty sera disponible sur Netflix. C'est un spin-off de À tous les garçons que j'ai aimés qui suit la petite sœur de l'héroïne de À tous les garçons que j'ai aimés qui va faire ses études en Corée du Sud.
Vous avez l'air de se passer dans un pays asiatique dont je n'avais pas identifié...
La Corée du Sud.
Donc on est sur une festival
et
de la Corée aussi.
On est sur une... en fait, sa petite sœur va là-bas parce que elle est, on va dire, son copain est dans cette école et du coup, elle rejoint là-bas et quand elle arrive là-bas, oh le drame. Il a une autre meuf.
Il aura les deux.
Elle a crié. Je pense et que le micro a cassé.
Meuf. Ça se fait trop pas.
Bah non, c'est pas cool.
Voilà, donc on va suivre ça, son petit périple en Corée du Nord. En Corée du Sud.
Non, faut arrêter d'aller en Corée du Nord.
C'est du Sud.
Ouais, sauf si elle fait du parapente, peut-être on n'est pas à l'abri d'un accident.
Moi j'ai trop envie de voir ce film, les gars.
C'est un film, j'avais pas vu que c'est un film.
Mais oui, c'est un film. Comme À tous les garçons que j'aime, mais voyons. Mercredi 24 mai, il y aura The Clearing, saison 1, 8 épisodes sur Disney+. Une femme est obligée d'affronter les démons de son passé afin d'empêcher une secte d'enlever des enfants. Ses enfants ou des enfants en général.
Des enfants.
C'est des enfants.
Ah. Parce que si elle a 8
enfants. On peut penser qu'elle faisait partie de cette secte.
Elle n'a pas 8 enfants.
Oui, je crois qu'elle faisait partie de cette
secte. Du coup, elle sait ce qu'ils font et elle essaie de les empêcher.
Les démons du passé, c'est la secte.
Ah, voilà.
Oh, on pourrait faire des fins de récapito où on essaie de deviner de quoi ça va parler en se basant juste sur ça.
Le même jour, il y aura American Born Chinese qui parle de Jin Wong, un adolescent ordinaire d'origine chinoise, partage son temps entre sa famille et ses amis lorsqu'il fait la connaissance d'un nouvel élève étranger. Le premier jour de la rentrée, Jin va se retrouver malgré lui embarqué dans une bataille opposant des divinités chinoises. Ça sera la saison 1 qui sortira sur Disney+ et ça comptera 8 épisodes. Et enfin, jeudi 25 mai, il y aura Fubar. Fubar ?
Comme les variables en programmation. Est-ce que c'est un lien ? Peut-être.
La saison 1 qui comptera 8 épisodes dispose sur Netflix. C'est une série d'espionnage avec Arnold Schwarzenegger. Ben, on est ravis. Et c'est fini !
Le mois prochain, on a décidé de regarder Queer Eye comme sujet du mois. Je suis très content.
Content.
Et on verra si Damien pleurera.
On peut faire des paris ? Moi, je parie
je pense
que...
qu'il pleurera
non.
Pas.
Ouais, on pense vraiment que t'as pas de cœur.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il pleurera pas.
Ouais, j'avoue que si je devais parier, je pariais là-dessus.
Moi, je pense que je vais pleurer.
Je pense que Mathilde va pleurer à chaque épisode et moi, je dis la moitié.
La moitié, ça veut dire que tu pleures 3,5 fois, c'est pas pratique.
Je suis très vent pour pleurer qu'à moitié où ça coule pas, mais ça, les yeux sont...
Ah oui, tu pleures pas la moitié des épisodes, tu pleures à moitié pendant voilà. Tous les épisodes. Ok.
Ainsi se termine ce 30e épisode du Récapito. On espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, on espère aussi que cet épisode vous a plu, mais je l'ai déjà dit. Vous pouvez...
Oh, la faille !
Hein ?
C'est une faille spatio-temporelle. C'est une boucle temporelle.
On espère que l'épisode vous a plu.
Oui, ça vous a plu ou pas ?
N'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter et surtout sur le blog
pled.fr.
On n'a pas de compte TikTok, mais on va en créer un.
Non.
Non, parce qu'on n'aurait rien à dire.
Des trends.
Si on pourrait faire de l'actu, non. Parce qu'on n'a pas le temps. On se retrouve dans un mois pour parler de Queer Eye, saison 7. Merci Mathilde.
Merci.
Merci Damien.
Merci Emilien.
Merci.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il se fait tard.
Bonne nuit.
Bah oui, il n'y a même plus de bonnes lettres. Bionnuit.
C'est Bionnuit, miaou Bionnuit.
Ah pardon, j'avais pas entendu le premier mot.
J'ai pas la ref.
Moi non plus.
C'est juste un chat qui dit...
D'accord. Ouais. Et ben bonne nuit les chats. Et surtout, surtout, bonne nuit à Pedro Pascal.
Ah bah oui. Qui écoute du coup.
Il écoute évidemment.
En s'endormant.
Salut.
This is the way.
Bisous.